Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Femmes contre la prison. Rencontre débat avec Gwenella Ricordo, auteur de Pour elles toutes, Femmes contre la prison, paru aux éditions Luxe. Un débat animé par le collectif L'Envolée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue pour cette présentation du livre de Gwenella Ricordo, Pour elles toutes. On est ravis que tu sois là ce soir pour présenter ce livre qui est sorti il y a 3 mois. Donc j'espère, je ne sais pas si dans la salle... parmi vous, certains et certaines l'ont lu ou survolé. On espère que oui, pour qu'on puisse en discuter un petit peu. Mais on part aussi un peu du principe que non. Et donc on va quand même commencer un petit peu cette discussion par un petit temps que Gwenola a voulu de présentation un peu en long. Des thèses, enfin en bref, quand même relativement bref de 30 minutes, des thèses qui sont défendues dans ce livre. Et en commençant peut-être par te présenter et puis et nous dire comment tu arrives aujourd'hui à écrire ce livre.
Oui, alors merci et encore bonsoir à toutes et tous. Et on va commencer par le début, par à la fois ma présentation et mon intention dans ce livre. Donc je suis professeure assistante en justice criminelle à l'Université d'État de Californie. En gros, je suis prof de criminologie, sauf que la criminologie n'existe pas vraiment en France. Et donc je suis universitaire, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis abolitionniste. Et je reviendrai un petit peu sur qu'est-ce qu'on entend par abolitionnisme. Et ça fait aussi pas mal de temps que je suis féministe et je suis féministe parce que je suis abolitionniste et je reviendrai aussi là-dessus. Mais avant de vraiment rentrer dans l'intention de ce livre et vous raconter les raisonnements, les questions qu'il pose, comme on parle d'un livre, je voudrais vous lire le début du livre. Le début du livre qui est pas forcément à l'image du reste du livre. Vous allez voir hein, par son ton et son positionnement, c'est pas exactement à l'image du reste du livre, mais j'espère qu'il pose bien en tout cas de là où je parle et les questions qui sont au centre de ce livre. Donc voilà, je vais vous lire le début du livre. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Celles qui ne disent rien parce que ça ne se fait pas. Parce que la police n'a rien fait la dernière fois. Parce qu'on ne les a pas crues lorsqu'elles étaient enfants. Parce que ce n'était pas si grave et qu'il avait peut-être le droit. Celles qui ne disent rien car elles savent qu'on ne les croira pas. Car elles sont trop tox, trop vieilles, pas assez jolies, pas assez sexy, trop grosses, trop handicapées, pas assez féminines. Celles qui ne disent rien car elles ont peur qu'on ne les croie pas. Parce qu'elles n'écrivent pas assez bien, parce qu'elles ne sont pas blanches, parce qu'elles ne se souviennent plus très bien. Celles qui ne disent rien, parce que c'est leur père, parce qu'il est policier, parce qu'il est riche et qu'il prendra un avocat, parce qu'il est français et qu'elles ne le sont pas. Celles qui ne disent rien, parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde qu'il n'y a pas idée de sortir la nuit, de sortir dans cette tenue, de sortir toute seule. Qu'il n'y a pas idée de boire, d'inviter un homme chez soi, d'aller sur un site de rencontre. Celles qui ne disent rien, parce que pourquoi le dire maintenant ? Celles qui ne disent rien, car elles se demandent si c'est pas un peu de leur faute. Celles qui ne disent rien, parce qu'elles l'aiment. Mon cœur se serre avec elles toutes, qui ne disent rien. Mon cœur bat à l'unisson, avec elles toutes qui luttent. Celles qui manifestent, s'enchaînent, tractent, hurlent, se réunissent, pétitionnent. contre les viols, les violences domestiques, les mutilations génitales, le harcèlement de rue, les assassinats, les viols conjugaux, les viols punitifs, les homicides conjugaux. Elles toutes dont on fait si peu de cas, parce que ce sont des femmes noires, des prostituées, des femmes trans, des lesbiennes, des femmes autochtones, parce qu'elles sont ouvrières ou parce qu'elles portent le voile, parce que ce sont des femmes. Mon cœur bat à l'unisson avec elles toutes qui luttent. Mon cœur est en prison avec elles toutes, celles pour qui c'était écrit, depuis la rue, depuis la cam, depuis le trottoir, depuis les fugues, celles pour qui c'était écrit, parce qu'elles sont nées, elles ne sont pas nées avec les bons papiers, le bon prénom, la bonne couleur de peau, celles pour qui c'était un accident, mais qui n'ont pas eu le choix, celles pour qui ce n'était pas écrit si elles avaient choisi un autre homme, celles pour qui ce n'était pas écrit s'il était resté. Mon cœur est dans les centrales et les centres de rétention, dans les cellules des mitards et dans les cellules de garde à vue. Mon cœur est en prison avec elles toutes. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes, celles qui attendent, celles qui sont fatiguées, celles qui sourient encore, celles qui sourient toujours, celles qui écrivent tous les jours, celles qui ont des frissons en pensant à leur premier parloir, celles qui râlent mais qui sont encore là, celles qui apportent le linge et envoient les mandats, celles qui ne reviendront peut-être plus, celles qui y croient encore et celles qui ne veulent plus attendre. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes. Mon cœur les comprend elles toutes, celles qui ne croient plus en la justice de leur pays, celles qui n'iront jamais voir la police parce que le veulent vivre, celles qui voudraient seulement que ça n'arrive pas à d'autres, celles qui préfèrent oublier, celles que la justice a laissées déçues, brisées, en colère ou malheureuses, celles qui ont pardonné, celles qui ont préféré écrire un livre, celles qui voudraient juste comprendre, celles qui diront toujours la prison pour personne. Mon cœur les comprend elles toutes, mon cœur a ses raisons. Alors voilà comment je pose le début du livre et cette mise à nu de mon expérience et de ma relation aux autres femmes et de cette expérience commune et ces bouts d'expérience commune, c'est le début du livre. C'est le début du livre parce que j'essaie de répondre à une question qui peut paraître simple, qui est le système pénal protège-t-il les femmes ? Qu'attendre du système pénal ? Et mon but, c'est de dépasser le simple constat qu'on entend très largement aujourd'hui, qui est celui de l'impunité des auteurs de délits et de crimes à caractère sexuel, hein, qui est certes vrai, et on pourra y revenir, mais de cette impensée qu'il y a aujourd'hui dans les courants dominants du féminisme, qui est de faire appel à davantage de punitions, de faire appel au système pénal. Et donc, j'entreprends dans ce livre de répondre, alors beaucoup dans une perspective sociologique, parce que c'est ma formation et c'est mon travail, hein, d'essayer de répondre à cette question, hein, le système pénal protège-t-il les femmes, en prenant trois cas de figure, à la fois la question de la victimation des femmes, donc qu'est-ce que fait le système pénal lorsque les femmes sont victimes, qu'est-ce qu'il fait aux femmes qui sont criminalisées, et ensuite qu'est-ce que fait la prison et le système pénal dans son ensemble aux femmes qui ont des proches qui sont judiciarisées. Et donc c'est le point de départ, hein, cette analyse de type sociologique, c'est le point de départ à ensuite une réflexion politique qui part d'une autre question qui est peut-on faire avancer la cause des femmes, peut-on faire avancer le féminisme en s'appuyant sur le système pénal ? Et ça va avec d'autres questions, hein. L'outil du droit est-il un outil émancipateur ? De quelle façon on peut porter des revendications féministes qui soient pas des revendications qui portent sur le système pénal ? Donc voilà, résumé à très grands traits le livre. Mais je crois que tu avais un petit passage que tu voulais lire.
Un petit passage qui complète ce que tu dis exactement là. Parce qu'en fait, c'est un livre, pour le dire en quelques mots, il est construit, donc il y a ce premier témoignage de Gonola qui raconte donc d'où tu parles, et puis ensuite c'est suivi d'une autre petite introduction qui résume exactement ce que tu viens de dire là et qui dit et qui essaye de problématiser cette question que nous on croise assez peu, je trouve, et trop peu, et c'est pour ça que ce livre est un énorme apport à la discussion, je pense, dans les temps qui viennent. Tu dis, les femmes servent de plus en plus souvent de prétexte pour justifier le durcissement des politiques pénales quand celui-ci n'est pas directement imputable aux mobilisations féministes, en particulier parce que les auteurs d'infractions à caractère sexuel sont, avec les auteurs d'attaques terroristes, la principale figure du danger que brandissent les défenseurs de ces politiques pénales. Or, l'échec des politiques mises en place jusqu'ici pour résoudre le problème des violences sexuelles est flagrant. L'ampleur du nombre de femmes qui ne portent pas plainte indique la faiblesse de la proposition politique des courants féministes qui promeut des réponses pénales aux violences sexuelles. D'ailleurs, le système pénal a-t-il jamais protégé les femmes? Et quelle sorte de femme faut-il être pour avoir encore confiance dans le système judiciaire? Et je pense que, enfin, résumé de manière assez hallucinante, les deux grosses questions qui traversent l'essentiel de ce livre, c'est à la fois comment définir une position sur le droit, la prison, et plus largement le fait que la prison, le système pénal dans l'ensemble, et des positions féministes dans un mouvement contradictoire et traversé de contradictions sur ces questions-là. Et qu'est-ce que l'apport, ce que tu disais en tant que sociologue, de l'université américaine et des courants qui traversent ce monde-là et la criminologie d'un pays où il y a une criminologie critique, ce qu'il n'y a pas ici, en fait. Mmh. Du coup, c'est...
Alors, c'est sûr que ce livre est... ma position politique se positionne à l'encontre de ce qu'on entend généralement aujourd'hui lorsque on entend parler, enfin on entend les revendications féministes. On est dans un contexte politique, en gros depuis les années 70, où il y a une sorte d'évidence hein, dans les courants dominants du féminisme que le système pénal peut protéger les femmes et que que la meilleure manière de résoudre la question des violences à caractère sexuel, des violences domestiques, ce serait un recours systématique au système pénal. Cette réponse, elle me semble faible à différents niveaux et encore une fois, on aura le temps de revenir sur tout cela plus tard dans le débat si ça vous intéresse. Mais une des premières lacunes qui me semble importante à souligner, c'est qu'on a, en parlant strictement des délits et crimes à caractère sexuel, on a affaire à des actes qui sont extrêmement répandus. C'est-à-dire qu'on sait dans les statistiques sur les auteurs de crimes et de délits à caractère sexuel, dans la plupart des pays occidentaux, on est assez d'accord dans les recherches pour dire que un homme sur 20, donc 5% des hommes, aurait été auteur de viol. Donc un acte qui est extrêmement répandu hein, en population générale. Lorsqu'on regarde les délits et crimes à caractère sexuel au sens le plus large, monte à des statistiques de l'ordre de plus de 10% des hommes qui auraient été auteurs de tels faits. On sait aussi que en France, les statistiques de victimation des viols nous indiquent qu'il y a au moins 50 000 viols commis tous les ans. Parfois, on estime même environ 70 000. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 70 000 personnes en prison. Et donc, le projet politique et celui des courants dominants du féminisme, hein, quand ils appellent à une impunité zéro, à systématiser les dépôts de plaintes et à systématiser les procédures pénales, ne nous disent pas que, en fait, leur projet, c'est d'incarcérer 70 000 hommes par an, hein, en sachant que le viol est rarement poursuivi, mais lorsque il est poursuivi et puni, on a des peines, hein, le viol étant punissable de 15 ans d'incarcération en France, on a des peines qui sont généralement autour de 10 ans. Donc, ce projet politique, hein, si les courants dominants du féministe réussissaient à mettre en place ce projet-là, ça voudrait dire, en clair, hein, d'incarcérer au moins 70 000 personnes tous les ans, 70 000 hommes tous les ans. Et donc monter d'ici une dizaine d'années à une population carcérale d'au moins 700 000 personnes. On a aujourd'hui 200 prisons, ça voudrait dire d'avoir à peu près 2000 prisons sur le territoire français, donc environ une vingtaine de prisons par département. Et donc les courants dominants du féminisme ne nous disent rarement ça, hein. Ils laissent ça dans l'ombre avec cette idée hein, qui est toujours répétée, de toute façon c'est impuni, mais il faut systématiser la punition. Donc sans nous dire qu'en clair, le projet hein, c'est bien d'incarcérer des dizaines de milliers d'hommes tous les ans. L'autre implicite de leur proposition de systématiser les dépôts de plainte et les procédures pénales, c'est l'hypothèse implicite que la punition aurait un rôle dissuasif sur les autres auteurs potentiels. Hein. On parle d'effet dissuasif de la peine et donc ça part de l'idée que lorsqu'une personne est condamnée, on a un effet dissuasif sur la personne elle-même, donc c'est prévenir la récidive en clair, et puis c'est prévenir d'autres personnes de commettre des actes similaires. Or, cette hypothèse, qui est une hypothèse extrêmement forte, en fait, dans le projet punitif porté par ces courants dominants du féminisme, cette hypothèse est au moins discutable. Puisqu'elle repose sur l'idée qu'il y aurait une forme de rationalité dans la commission des délits et des crimes. Or, cette rationalité de l'auteur d'actes délictuels ou criminels, elle existe en partie. Elle existe en partie sur des actes qui sont en général les actes les moins graves. Si vous fraudez les transports publics, vous allez sans doute avoir un raisonnement de type rationnel. Vous allez, en tout cas je l'espère pour vous, parce que vous allez diminuer votre risque de vous faire attraper, mais si votre intention est de frauder les transports en commun, vous allez sans doute faire un calcul rapide sur le risque d'être attrapé et puis le prix du ticket comparé au prix de l'amende et les répercussions que va avoir le paiement de cette amende sur votre vie. Vous allez faire une évaluation risque, bénéfice, conséquences à long terme. Le vol dans les magasins est aussi souvent lié à une forme de rationalité. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de voler une orange ? Pas tellement. Après, ce calcul de rationnel, il est aussi différent selon les individus, selon les caractéristiques, hein, selon la façon dont on risque d'être perçu par les vigiles, les policiers, etc. Mais ce calcul rationnel, hein, avant de commettre un acte délictuel ou criminel, il est quand même assez restreint. Il est restreint donc souvent à des actes qui sont les punissables gravement. Lorsqu'on parle des délits et des crimes à caractère sexuel, des violences conjugales et de manière générale des faits les plus graves, il est extrêmement rare que les auteurs aient ce type de calcul. Hein. Et du coup, l'effet dissuasif que peut avoir la punition de soi-même ou d'autres auteurs a très peu d'effet. Et donc, vous voyez que cette hypothèse extrêmement forte que font les mouvements dominants du féminisme en disant « mais si on punit, ça va empêcher la commission d'autres délits et de crimes » est au moins discutable. Et c'est assez apparent que tout cela reste toujours tu dans les débats qu'on peut avoir autour de ces propositions. Je peux continuer à parler mais vas-y si tu veux.
Non mais du coup je pense qu'à un moment du coup tu pourras aussi du coup le pendant de ça mais on en reviendra plus tard mais qu'il faudra peut-être pas oublier c'est que du coup quand même la criminalisation de l'autodéfense des femmes qui est une espèce de pendant qui rend assez difficile ce qui paraîtrait aussi difficile de donner d'autres réponses et qui sont en fait et ton livre tend vers ça en fait le livre essaye de réfléchir à comment construire et pas simplement juste jeter l'opprobre sur une partie du mouvement féministe et son histoire mais tu laisses une grande place à l'histoire et ça c'est la dernière partie du livre peut-être du coup prendre l'autre angle que tu pour qu'on ait un petit peu les deux commencements de ton livre et le deuxième c'est donc celui d'une histoire que tu essayes de refaire de ce qu'on appelle donc aux États-Unis l'abolitionnisme qui serait pénal, un abolitionnisme pénal, c'est-à-dire qui serait pas simplement anti-prison ou qui viserait à détruire la question de la prison, mais comment cette pensée-là s'inscrit dans un truc encore plus large qui consiste à remettre en cause le recours à la pénalité de manière plus générale, quoi, en fait. Voilà, et c'est au croisement de ces deux pensées que tu construis ton livre, quoi.
Alors, c'est vrai que la perspective dans laquelle je m'inscris est celle de l'abolitionnisme pénal et que je suis fortement influencée par ce qui se discute et s'élabore d'une manière théorique aux États-Unis en essayant de tenir ces deux aspects ensemble, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'abolitionnisme qui puisse être uniquement théorique, hein, qu'il y a des allers-retours entre les mobilisations politiques et ce qui s'élabore, et que voilà, on peut pas avoir une pensée uniquement théorique et académique, ce qui est parfois la critique qu'on peut faire à l'abolitionnisme aux États-Unis. Mais en tout cas, j'essaie de tenir ces deux aspects ensemble. Alors c'est vrai que aux États-Unis, peut-être aussi plus généralement en Amérique du Nord. Depuis environ le début des années 80, l'abolitionnisme se revendique plus souvent de l'abolitionnisme pénal que strictement d'un abolitionnisme de la prison. Alors, ça nécessite peut-être de faire une petite parenthèse sur mais qu'est-ce qu'on entend par le système pénal ? Le système pénal, c'est un ensemble d'institutions, c'est à la fois la prison, mais aussi la police, ce qu'on entend couramment par la justice, donc les décisions judiciaires. Mais en gros, c'est tout le système de prise en charge par l'État, et là le mot est important, que ce soit l'État, qui décide que certains actes doivent être punis. Hein, et ce qui est central dans la pénalité, c'est cette dimension punitive. Hein, c'est pas la prise en compte qu'il y ait une victime ou pas. Hein, certains actes sont poursuivis, que la victime ou non porte plainte, qu'il y ait d'ailleurs ou non une victime. Et c'est la grande différence avec le droit civil. Et donc l'abolitionnisme pénal propose l'abolition de ces institutions. Alors on pourra revenir après sur la proposition qui est faite de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus de système pénal. Mais tu me donnais l'occasion d'évoquer les États-Unis et les élaborations qu'il y a aux États-Unis sur ces questions-là. Et c'est important de souligner qu'il y a des traditions politiques qui sont extrêmement différentes et qui expliquent que aux États-Unis, c'est vrai qu'on réfléchit davantage à l'abolitionnisme pénal, là où en France et même plus généralement en Europe, on est davantage sur des luttes anticarcérales et la question de l'abolition de la prison. Alors, il y a des traditions politiques nationales qui sont liées notamment au fait que en Europe, l'abolitionnisme se pense et se milite essentiellement dans l'extrême gauche révolutionnaire et en particulier dans les courants anarchistes autonomes. Là où aux États-Unis, l'abolitionnisme est sorti hein, de l'extrême gauche révolutionnaire. Alors, l'abolitionnisme est sorti des marges politiques pour différentes raisons, à commencer par, en tout cas c'est une hypothèse qui me semble assez intéressante de creuser, c'est que les États-Unis, en tout cas les populations états-uniennes sont confrontées à ce qu'on appelle l'incarcération de masse, un phénomène qui s'est produit en gros entre les années 80 et l'an 2000, une multiplication par 5 de la population carcérale, des gens qui sont en prison, donc avec ce chiffre extrêmement frappant de 2,3 millions de personnes incarcérées, donc un taux d'incarcération qui est 10 fois supérieur à ce qui existe en France. Mais surtout, ça s'ajoute, des millions d'autres personnes qui sont placées sous main de justice avec des mesures de probation ou des libérations conditionnelles. Hein, et là, on a affaire à plus de 4,5 millions de personnes qui sont finalement condamnées à des peines qui ne sont pas des peines d'incarcération. Ce qui veut dire que le système pénal la confrontation au système pénal n'est pas une expérience marginale. Il y a une petite statistique que j'aime bien. Enfin, elle est assez effroyable, mais elle dit bien cette réalité. Une femme noire sur deux aux États-Unis a eu un proche incarcéré. C'est-à-dire que dans la vie des femmes noires aux États-Unis, c'est une expérience extrêmement banale que d'avoir un proche incarcéré. Et donc, le fait que certaines communautés de minorités ethniques et des populations les plus pauvres soient confrontées à l'expérience de la prison et plus généralement de la criminalisation, de la judiciarisation, a fait qu'un certain nombre de communautés, sans forcément se positionner sans forcément avoir des positions révolutionnaires, anticapitalistes par ailleurs, ont pu élaborer des réflexions de type abolitionniste, hein, de comment faire sans le système pénal. Alors peut-être aussi, il y a quelque chose d'autre qui me semble aussi important à souligner sur les États-Unis et pourquoi cette question de l'abolitionnisme pénal plutôt que stricto sensu l'abolition de la prison, parce que c'est développé aux États-Unis que ça ne l'est en France. Alors, notamment avec la pratique du bracelet électronique. Le bracelet électronique ou les formes de peine de type peine de probation, de contrainte judiciaire, etc. Et ce qu'on dit de plus en plus souvent dans les milieux abolitionnistes aux États-Unis, c'est que l'abolition de la prison risque d'être plus le fait du système capitaliste lui-même que des luttes abolitionnistes. Pourquoi ? Parce que l'enfermement des personnes en prison n'est pas tellement rationnel d'un point de vue économique et qu'il y a d'autres formes de peine qui peuvent davantage rapporter à la fois aux sociétés privées et au système pénitentiaire. Alors je vous donne l'exemple plus précis du bracelet électronique qui est très très pertinent, c'est que en France le bracelet électronique est une peine qui ne coûte pas d'argent à la personne qui est condamnée. Aux États-Unis, le placement sous bracelet électronique, c'est payant, hein, ça coûte à peu près une centaine de dollars par mois, et le retrait même du bracelet électronique coûte de l'argent. Ce qui fait que certaines personnes d'ailleurs se retrouvent dans une trappe, hein, une fois qu'elles sont placées sous bracelet électronique, parce que elles n'ont pas la possibilité d'aller travailler, de se rendre à l'équivalent de Pôle emploi, etc. Et du coup, n'ont pas assez d'argent pour se faire retirer le bracelet électronique. Donc, vous voyez, c'est des cercles vicieux. Donc, ils se retrouvent dans des dettes. Hein. Alors, la dette commençant souvent avec la libération de la maison d'arrêt sous caution, hein, où là, beaucoup de gens doivent s'endetter avec des taux d'intérêt que vous imaginez faramineux. Et donc, on a un système pénitentiaire et pénal au sens le plus large, qui est de plus en plus financé par les contrevenants, pardon. Sur ce sujet, il y a un livre qui vient d'être traduit en français par les éditions Divergence, qui s'appelle Le capitalisme carcéral, par Jackie Wang, qui est extrêmement à la fois bien informé et aussi très intéressant d'un point de vue théorique, puisque donc elle réfléchit à ce qu'elle appelle le capitalisme carcéral. Donc si ces questions-là vous intéressent, vous aurez des descriptions extrêmement précises de comment tout cela fonctionne. Et la manière dont les populations les plus pauvres sont pris dans cette trappe économique, elle est à la fois pour les contrevenants, et les personnes qui sont criminalisées, mais c'est aussi le cas de leurs proches. Hein, on a un certain nombre de sociétés qui fournissent des services aux proches de personnes incarcérées, notamment la téléphonie, la vidéoconférence, sachant que de plus en plus les prisons suppriment les parloirs, les visites, hein, et donc les proches ont de fait l'obligation de passer par ces services, hein, de type JP, y a d'autres sociétés qui proposent ces services-là, ce qui coûte énormément d'argent. Hein. Ça coûte souvent $1 la minute pour pouvoir avoir accès à ces services. Et donc, on voit que les sociétés qui sont dans cette industrie de la punition développent de plus en plus des techniques, que ce soit le bracelet électronique, mais aussi de plus en plus des applications sur le téléphone avec reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, un certain nombre d'applications qui peuvent être liées à l'utilisation de la voiture, des formes de géolocalisation qui risquent de rendre, pour reprendre l'expression d'Angela Davis, hein, la prison obsolète. Hein, et que donc, il y a en tout cas, ça informe énormément la pensée abolitionniste états-unienne, de dire mais en fait la lutte ne peut pas se focaliser sur la prison, parce que même sans la prison, en fait, on aura des formes de pénalité, pardon, qui restent au cœur en fait de la façon dont les populations pauvres, les minorités raciales sont disciplinées. J'ai répondu à ta question.
Oui, largement. Et alors du coup, peut-être un petit dernier point avant de passer à une partie de discussion qu'on respecte un peu le contrat qu'on s'est donné. En gros, faire 35 minutes de présentation avant de discuter. Ce serait... tu as abordé la question précisément du lien entre les femmes ou les mouvements féministes ou les féminismes et la prison. et l'enfermement du point de vue de la demande de pénalité, etc. Et dans ton livre, tu fais aussi un retour sur la, précisément la, la, donc ça c'était du côté de la victimation en fait, les études dites de victimation, le gros mot universitaire, hein, qui veut dire subir en fait à cet endroit-là, et quoi faire face à ça. Et puis t'as toute une partie dans ton livre qui vient sur la, précisément sur la judiciarisation des femmes, c'est-à-dire ces femmes qui se retrouvent enfermées, pour quelles raisons, comment, pourquoi. Et là-dessus, le livre, il est, je trouve qu'il a, il, précisément cet aller-retour entre les États-Unis et la France, qui me paraissait dangereux parfois, je me disais comment tu vas réussir à te sortir de ce truc là, ça marche et c'est assez intéressant aussi comme tu viens le faire là sur les histoires de bracelets électroniques et d'avenir et de choses, qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va pas se produire, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe vraiment aux États-Unis. On n'a pas la même histoire, il y a des choses qui convergent, d'autres pas du tout et d'autres qui divergent. Et là sur la question de l'enfermement des femmes avec les victimations cumulées quoi en fait, et les judiciarisations cumulées de personnes qui sont particulièrement fragiles parce que femmes, pauvres, migrantes ou racisées, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ce que tu en dis dans le livre et avant peut-être qu'on passe à autre chose?
Alors tout à l'heure j'ai évoqué ce phénomène de l'incarcération de masse et c'est intéressant de préciser que depuis quelques années, en gros depuis le début des années 2000, on est dans une période de reflux, c'est-à-dire une diminution du nombre de personnes qui sont incarcérées dans les prisons états-uniennes. Et c'est une bonne nouvelle, mais paradoxalement, en fait, la seule population qui diminue pas dans les prisons, c'est la population des femmes. Hein. Les femmes continuent à être davantage incarcérées, et dans les États où il y a des diminutions du nombre de femmes, leur nombre diminue bien moins vite que le nombre d'hommes. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, pourquoi et qu'est-ce que ça peut nous dire sur les femmes qui sont incarcérées ? En fait, et c'est pas propre aux États-Unis, c'est ce qu'on voit dans la plupart des pays occidentaux. Les femmes qui sont incarcérées ont beaucoup de points communs avec les hommes qui sont incarcérés. Hein, elles viennent des mêmes milieux populaires. Pour une grande partie d'entre elles sont aussi issues de l'histoire des migrations et de l'histoire coloniale. Mais elles ont une particularité, c'est celle de la proportion d'entre elles qui ont été victimes de violences à caractère sexuel ou de violences domestiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de constant hein, dans toutes les prisons pour femmes et toutes les populations de femmes incarcérées, d'avoir une survictimation par rapport à la population générale. Le fait qu'elles aient... qu'elles aient été l'objet de délits ou de crimes à caractère sexuel ou de violences domestiques, explique rarement directement pourquoi elles sont incarcérées ou leur passage à l'acte ou la commission de faits. C'est souvent un lien qui est indirect. Alors on parle de, je ne sais pas s'il n'y a pas une meilleure traduction, mais de pipeline, en tout cas, de relation de cause à effet entre l'abus sexuel et la prison, hein, et que ce cheminement, il est souvent sur plusieurs années. On n'est pas dans une criminalisation qui est liée directement à cette victimation, mais la victimation des femmes va façonner leur trajectoire sociale. Hein, va s'inscrire, par exemple, dans un parcours d'itinérance. Elle va expliquer pourquoi certaines femmes se retrouvent sans domicile fixe. Elle va parfois façonner un parcours d'usage de produits stupéfiants et puis au fur et à mesure hein, va déboucher sur une forme de criminalisation, certains passages à l'acte, etc. C'est également ce qu'on observe sur la criminalisation des personnes LGBT où là aussi on a souvent des parcours qui commencent dans l'adolescence avec des formes de rejet, de stigmatisation au niveau de l'école, au niveau familial et qui permettent de comprendre hein, pourquoi on a une surreprésentation des personnes LGBT incarcérées. Bref, pour en revenir aux femmes qui sont incarcérées, elles ont cette spécificité-là d'être en très grande partie des femmes qui ont eu une histoire de victimation et d'une victimation extrêmement grave. Alors ça explique aussi les difficultés qu'elles vont avoir et qui vont être souvent supérieures à celles des hommes aussi dans leur parcours d'après prison. Et c'est une des raisons qui fait dire que la prison est beaucoup plus dure pour les femmes que pour les hommes. Hein, à condition de détention égale, à longueur de peine égale, la prison est beaucoup plus dure pour les femmes que pour les hommes. Et puis s'ajoute au lorsqu'on regarde la criminalisation des femmes d'une perspective féministe, c'est un constat qui sans doute vous étonnera pas, hein, mais que pour beaucoup de femmes issues des milieux populaires ayant cette histoire de victimation, c'est souvent en prison qu'elles accèdent à des ressources dont elles auraient eu besoin lorsqu'elles n'étaient pas en prison. Et donc il y a ce paradoxe du système pénal, hein, qui prétend réhabiliter, qui prétend réinsérer des personnes, en fait, qu'elles contribuent à désinsérer et à isoler socialement. Hein, et donc, c'est aussi l'un des angles par lesquels les abolitionnistes critiquent le système pénal. Hein, puisque on pourrait dire que l'un des slogans abolitionnistes pourrait être davantage de justice sociale et moins de justice pénale. Je voulais finir sur un slogan.
Ouais, bah c'est voilà. Du coup, on peut peut-être maintenant passer à une autre phase, puisqu'on a terminé sur un slogan. Du coup, c'est marrant. Et une phase qui, justement, laisse la part aussi à la discussion, peut-être, sur la question de l'action et de ce qui se passe aussi du côté des luttes et du côté de la résistance, en fait, à cette. Ou des réponses qui seraient données à ces trucs et qu'on pourrait discuter ensemble, en partie, ce soir. Et je voulais juste rajouter un dernier mot sur l'histoire de que la prison est plus dure pour les femmes que pour les hommes. Et il y a une raison aussi supplémentaire, c'est qu'elle est un peu plus facile pour les hommes que pour les femmes. C'est parce que très souvent, des femmes aident des hommes en prison, ce qui n'est jamais le cas ou très rarement le cas, à l'inverse. Et qu'au parloir, on trouvera énormément de femmes, mais on trouve très très peu d'hommes qui viennent visiter, ne serait-ce que visiter une membre de leur famille, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est vrai aux États-Unis, est vrai en France, et ne change pas, mais pas du tout. Enfin, voilà, là-dessus, il y a zéro évolution, quoi.
Faut pas croire les chanteurs de rap quand ils parlent de leurs frères qui sont en prison. Il y a plus personne, hein, pour les hommes qui sont en prison, et les copains ils sont pas là. Hein.
Non.
C'est les copines, les mères, les sœurs, etc.
Et là on rejoint du coup toute la partie de ta vie d'avant les États-Unis et la fac de Chico, donc l'État de Californie où on a à la fois la peine de mort et le droit de fumer des joints. C'est quand même pas tout à fait le même pays, mais c'est quand même ça. Où tu t'occupais et t'as été très proche précisément de collectifs et d'associations que t'as animé ou t'as participé à ces histoires de proches de prisonniers et de prisonnières. Et qui réfléchissait sur la manière de s'organiser aussi à l'extérieur, autour des luttes de l'intérieur ou de luttes qui se construiraient aussi à l'extérieur entre femmes qui se solidariseraient les unes des autres et sans être dépendantes exclusivement des embrouilles de leurs mecs à l'intérieur de la prison. Voilà. Donc des questions ou des contributions.
J'avais une question par rapport, je connais pas du tout le sujet. Bonjour, merci d'avoir fait une introduction très claire et qui relie plein de choses et permet plein de questions. J'avais une question par rapport au nombre. Pardon ? Comme ça ? Ok, super, merci. Bon, du coup, je faisais un petit message de remerciement. Et je voulais juste dire par rapport à l'augmentation du nombre de. Enfin. À la moindre diminution du nombre de femmes incarcérées ou alors l'augmentation de leur nombre, est-ce qu'il n'y a pas du coup une espèce de double dynamique, on va dire, entre une dynamique qui serait positive de responsabilisation de la femme et qui du coup aurait pour contrepoids, on va dire, cette criminalisation, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, et du coup, est-ce que... Enfin, comment on pourrait, entre guillemets, corréler ça pour voir s'il y a d'autres évolutions dans la société, pour savoir si c'est effectivement une augmentation de la criminalisation ou si effectivement c'est lié à d'autres, d'autres logiques de prise de pouvoir, enfin d'empowerment, de prise de pouvoir, ouais. D'agir. Ouais.
Merci pour ta question qui est en fait assez complexe. Elle est complexe parce que la question que tu poses, c'est celle à laquelle essaie de répondre ce qu'on appelle les recherches en sentencing, les recherches sur le prononcé des peines. Hein, de voir... Il y a de l'écho, là. Il y a une petite musique zen... Pas désagréable d'ailleurs, mais bon. Donc les recherches sur le prononcé des peines. Hein, pourquoi certaines peines sont prononcées? Alors c'est un champ de recherche qui est très peu développé en France, mais sur lequel il y a pas mal de débats aux États-Unis. Hein, de type, est-ce que les juges noirs prononcent le même type de peine que les juges blancs, etc., etc. Sur la question donc que tu poses, qui est celui des différences de peine prononcées entre les femmes et les hommes, et du coup de ce phénomène-là, on a longtemps fait dans les recherches l'hypothèse qui était assez convaincante de ce qu'on appelait le paternalisme judiciaire, c'est-à-dire cette idée que à délit ou crime égal, les femmes sont moins condamnées, et lorsqu'elles sont condamnées à des peines qui sont moins longues, moins graves, etc. Cette hypothèse, elle est relativement vérifiée et vérifiable, avec cette exception quand même de taille à noter, notamment si vous avez l'intention de rentrer dans une carrière criminelle, c'est que si pour les femmes, on s'en sort mieux devant un juge pour... En général, pour, les peines prononcées pour les femmes sont plus faibles que celles prononcées pour les hommes, à l'exception des délits et des crimes qui touchent les enfants et les partenaires, donc dans le cercle intime. Et là, pourquoi ? Bah parce que on a affaire aux attendus sociaux hein, de ce qu'est une femme, une mère et une compagne. Donc c'est relativement vrai hein, cette idée que les policiers, les juges, etc., hein, sont plus bienveillants à l'égard des femmes. Et ce paternalisme, il s'explique par des préjugés sur les femmes hein, en termes de moindre responsabilité, hein, des formes d'excuses qu'on va trouver aux femmes, hein, qu'elles sont que si elles ont commis tel acte, hein, c'est parce qu'elles étaient sous l'influence d'un homme ou des émotions, etc. Alors, ce qu'on peut néanmoins reconnaître, et ce qui est également intéressant dans une perspective féministe, c'est que lorsqu'on regarde les femmes qui sont condamnées pour des peines les plus longues, c'est qu'il y a une particularité, une grande différence avec les hommes qui sont condamnés pour des faits similaires, c'est qu'il est très rare qu'un homme ne soit pas lié à cette histoire criminelle. C'est-à-dire, en clair, que les femmes qui sont condamnées à des peines les plus longues ont rarement commis cet acte seul. Hein, elles ont généralement un homme qui est complice, ou alors un homme qui est victime, hein, dans des situations, par exemple, de proxénétisme ou d'usage de drogue. Par contre, lorsqu'on regarde les hommes qui sont condamnés pour des peines extrêmement longues, il est très rare qu'ils aient une femme comme complice. Hein, ils ont parfois d'autres hommes complices, et puis, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont commis les faits seuls. Hein, donc, il y a cette dynamique, souvent, hein, qui implique un homme. Alors, je vais quand même en venir à ta question. Ce durcissement à l'égard des femmes, il peut être pensé comme une forme de backlash, hein, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire cette idée que les femmes doivent être traitées comme des hommes. Et du coup, que la pénalité hein, des femmes s'aligne de façon progressive sur celle des hommes. Hommes et femmes, traitement égal. Alors ça, on le voit et c'est dénoncé par certains mouvements hein, une sorte de traitement punitif des femmes hein, qui va... alors, ça crée aussi des débats. Hein, et là, ça va être des débats qu'on connaît dans le féminisme. Hein, est-ce qu'il faut... pousser des revendications qui prennent en compte les spécificités des femmes ou au contraire, est-ce qu'on doit être plutôt dans une approche universaliste hein, qui essaie de gommer ces traitements différentiels ? Toujours est-il que les femmes ont plutôt à perdre hein, à la fin des traitements différentiels. Hein, lorsque les femmes sont traitées de la même manière que sont traités les hommes dans les prisons américaines, elles y perdent effectivement. Donc je pense qu'on peut répondre à ta question par oui, c'est une forme d'uniformisation du traitement des hommes et des femmes. Donc on perd du côté de ce paternalisme, mais on sait bien qu'il y a des avantages secondaires au patriarcat et le traitement judiciaire des femmes en fait partie.
Ce qui alimente les thèses masculinistes
aussi.
Qui, eux, délirent avec ce truc-là, parce qu'il y a un petit passage là-dessus qui est vraiment, et c'est là où on voit vraiment quand même le pays, la folie masculiniste dans sa plus simple expression, qui pense vraiment que les femmes ne vont pas en prison, enfin, ils sont, et qu'il y a un complot. Il y a un complot des femmes enfermées de tous les hommes. C'est vraiment un truc, une espèce de renversement absolu. Une autre question
Oui, je voulais... Si tu pouvais développer l'histoire de l'autodéfense, parce que quand on voit l'accueil qui est fait en France sur, par exemple, la campagne MeToo, où, oh là là, les femmes sont en train de faire de la délation, etc. et tout, je sais pas comment ça peut avancer, cette histoire-là. La critique de la justice d'État est plus que nécessaire, mais une autodéfense, alors, est-ce que c'est plus avancé aux USA, ou est-ce que, dans ton livre que j'ai pas lu, tu abordes un petit peu cette approche?
Bonjour, merci. Moi, je voulais savoir, vous avez très rapidement parlé de, mais que vous, pour dire que vous en parlerez pas, des solutions autres que le système carcéral et pénal. Et enfin, du coup, c'est un peu lié à l'autodéfense. Et donc, je ne sais pas, peut-être vous allez un peu en parler là, mais aussi, est-ce que vous auriez des références à conseiller pour, sur ce sujet-là?
Merci. Alors, tout d'abord, je vais essayer de répondre à la question sur l'autodéfense et qu'est-ce qu'on peut en dire à partir de l'expérience états-unienne. Alors, il y a à la fois des choses positives et des choses assez inquiétantes. Je vais commencer par le positif, c'est que on a des mouvements féministes. De femmes qui sont en prison, condamnées pour de l'autodéfense, qui ces dernières années ont permis de faire évoluer certaines législations, notamment en Californie, collectif de femmes incarcérées, des femmes qui sont parfois incarcérées à perpétuité. Dans beaucoup d'États aux États-Unis, la perpétuité, c'est la perpétuité réelle. Il y a un groupe extrêmement fort à New York également, Survivor and Punished, extrêmement fort au Texas, avec des coalitions de femmes à la fois des anciennes prisonnières et des femmes qui sont encore incarcérées. Et il y a et ces mobilisations informent et façonnent certains courants du féminisme, avec cette en remettant en mettant en lumière la condition des femmes victimes de violences et qui se sont défendues. C'est aussi je réponds un peu rapidement, mais je pense que le cas de Cissy McDonald, une femme trans qui a été incarcérée suite à une situation d'autodéfense, a aussi beaucoup mis en lumière la question de l'autodéfense des femmes, des personnes LGBT, des femmes trans en particulier, en sachant que les taux de victimation parmi les femmes trans sont extrêmement élevés. Donc on a à la fois cette conversation et ces mobilisations qui sont assez intéressantes, mais en même temps une criminalisation qui est extrêmement forte de l'autodéfense. Et là, c'est mon deuxième niveau de réponse à cette question, avec et là je m'appuie sur les travaux d'une chercheuse africaine-américaine qui s'appelle Elizabeth Bernstein, qui a bien montré comment les mobilisations féministes, en demandant l'automatisation des poursuites pénales et l'automatisation de l'intervention des policiers lorsque il y a des situations de violence domestique, s'est traduit par une criminalisation des femmes et des personnes LGBT. Alors en clair, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là où avant il n'y avait pas de les auteurs n'étaient pas dénoncés, hein, on était dans des situations d'impunité. Le fait que aujourd'hui les forces de police ont l'obligation d'intervenir lorsque ils sont mis au courant d'une situation de violence domestique, et j'emploie le mot de violence domestique parce qu'on est effectivement dans cette dépolitisation où les violences sont pensées comme étant quelque chose lié à la domesticité et pas au rapport entre les hommes et les femmes. Donc l'intervention des policiers de façon systématique fait que, bah, en fait, dans beaucoup de situations, les deux personnes, voire plusieurs personnes dans le foyer, se retrouvent criminalisées. On a affaire donc à des personnes racisées, à des personnes LGBT, à des personnes qui peuvent être sans titre de séjour, qui se retrouvent criminalisées là où auparavant elles ne l'étaient pas. Et donc on a affaire à des arrestations systématiques, qui fait que beaucoup de femmes, hein, et de personnes LGBT, c'est vraiment les deux populations dont une partie là de la criminalisation est clairement liée aux politiques de systématisation du recours à la police et aux procédures pénales. Donc c'était ma réponse peut-être imparfaite à la première question sur l'autodéfense. Peut-être ce que j'ai oublié de dire sur les mobilisations là des femmes criminalisées en situation de défense, c'est que leur mobilisation et les évolutions législatives qu'elles ont permis de faire dans certains États repose beaucoup sur la notion de syndrome de la femme battue ou de légitime défense différée. Hein, cette idée que lorsque une femme est victime de violences conjugales, l'autodéfense ne peut pas se penser strictement comme une réponse dans une situation de menace imminente. Hein, ce qui est la définition qu'on a aujourd'hui en droit français, hein, avec une réponse, l'autodéfense doit être proportionnelle. Hein, alors, chose qui paraît quand même relativement absurde d'avoir les réflexes de penser à la proportionnalité de votre réponse dans une situation de danger. Mais bon, toujours est-il qu'en France, on est vraiment sur une définition extrêmement étroite de ce que peut être entendu par autodéfense. Et donc, ces évolutions législatives sont pensées autour donc de ce syndrome de la femme battue, de cette idée d'autodéfense différée qui doit permettre d'exonérer d'innocenter une femme qui se défend en dehors d'une situation de menace imminente. La deuxième question était sur, mais en fait, que faire une fois qu'on a aboli la prison ou le système pénal? Quelles sont les propositions concrètes des abolitionnistes? Alors, à cette question, évidemment, plusieurs réponses possibles. C'est vrai que dans le livre, parce que quand même le but c'est un peu de parler du livre aussi et de la façon dont je l'ai conçu. Évidemment que j'ai un point de vue sur une position sur les options stratégiques et ce qui me semble le plus intéressant. J'ai ce positionnement. En même temps, bah, ça fait 20 ans que je suis abolitionniste et j'ai moi-même évolué. Et du coup, bah, ce livre, je l'ai aussi écrit en me disant bah, quel est le livre que j'aurais aimé lire il y a 20 ans. Et donc, c'est vrai que j'essaie de montrer quels sont les débats qui traversent les mouvements abolitionnistes, quelles sont les différentes perspectives stratégiques, avec cette idée que le livre pose des questions, le livre n'est pas un livre de réponses. J'espère qu'il va susciter des débats, qui va permettre d'approfondir les discussions qu'on peut avoir d'un point de vue stratégique. Et voilà, j'essaie de tenir un peu ces deux choses ensemble, à la fois évoquer les débats et puis dire ce qui me semble, en tout cas en l'état actuel de ma réflexion, plus pertinent. Alors, que faire? Il y a des Il y a des manières qui peuvent sembler un petit peu des pirouettes hein, de répondre à cette question, de dire bah, il faut faire la révolution, abattre le capitalisme, et puis les relations sociales évolueront parce que les relations sociales avec les changements de rapports de production, on peut espérer que les rapports sociaux seront plus harmonieux et que du coup on aura moins de ce qu'on appelle aujourd'hui de délits et de crimes. On peut aussi espérer que une autre définira les catégories de situations problématiques, comme disent certains abolitionnistes, à l'image de la société que l'on souhaite, et que donc je donne des exemples assez triviaux, hein, mais comme la consommation de produits stupéfiants, il y aurait aucune raison de continuer à criminaliser ça. Donc il y a une réponse qui est qui me semble en partie insatisfaisante parce que ça renvoie à un après et un après un petit peu incertain. D'autres positionnements stratégiques disent en fait l'abolition il faut la faire par étapes. Il faut la faire par étapes, c'est ce qu'on appelle les stratégies réductionniste, c'est-à-dire qu'il faut s'attacher à réduire de plus en plus la population pénale, donc en décriminalisant, déjudiciarisant un certain nombre d'actes. Hein. Par exemple, c'est les appels à décriminaliser l'usage de produits stupéfiants, à faire sortir les prisonniers, par exemple les prisonniers malades, à réduire les peines, etc. En se disant, on va arriver à une population carcérale la plus petite possible, et puis bon, là, on réfléchira avec ceux qui restent. Et puis il y a une autre stratégie auquel je consacre la dernière partie du livre, qui se développe depuis le début des années 2000 en Amérique du Nord, qui est celle de la justice transformative. Alors, justice transformative, elle est née essentiellement dans des communautés marginalisées, alors en clair des minorités ethniques, des groupes LGBT, des groupes de travailleurs et travailleuses du sexe, qui savent de par leur expérience de victimation qu'elles ne peuvent pas attendre de protection du système pénal, qui savent que si elles vont voir la police, elles risquent d'être criminalisées, elles risquent d'être revictimisées, hein, par exemple. Et donc ces communautés se sont dit, mais leurs besoins en tant que victimes sont des besoins légitimes et qu'il s'agit de construire aux marges du système pénal des façons de répondre à leurs besoins de victimes. Alors, besoins qui sont des besoins de vérité, des besoins de reconnaissance des torts qui ont été commis, besoin de donner du sens à la victimation, et puis aussi un besoin de transformer les structures sociales, les structures qui ont permis la commission de ces actes. Et donc, on a un certain nombre de groupes qui proposent donc de faire de la justice transformative, qui par certains aspects est assez proche de la justice réparatrice. Donc c'est l'idée de sortir de la matrice punitive qui est celle du système pénal, et que donc plutôt que d'être dans le face-à-face entre un auteur et une victime, hein, ce que propose le système pénal, avec cette idée d'une responsabilité individuelle, hein, que si un délit ou un crime a été commis, on peut rechercher une responsabilité individuelle et donc désigner un auteur. On est avec la justice transformative, non pas dans le déni qu'il y a un auteur, hein, on reste bien quand même dans l'idée que les personnes ont posé un certain nombre d'actes et qu'elles ont une responsabilité dans ces actes, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle une responsabilité communautaire, et qui donc il faut œuvrer collectivement à la réparation de ce qui a été commis. Et pour un certain nombre d'actes, il est difficile de penser simplement la réparation, parce qu'il n'y a parfois pas de réparation au sens strict qui est possible, mais bien d'essayer de changer les rapports, hein, de travailler ces rapports de domination pour éviter que d'autres actes soient commis. Et là, je sais que pour certaines et certains, on se dit, mais en fait, de quoi elle est en train de parler très concrètement. Très concrètement, on parle de procédures collectives qui impliquent donc des auteurs et qui impliquent des victimes et qui impliquent, selon les actes et selon les personnes qui sont impliquées dans cette procédure, d'autres personnes. C'est-à-dire que votre communauté n'est pas ma communauté, que selon le type d'acte, on va pas faire appel au même type de personnes. Hein. Si on a affaire à un acte sexiste, on va pas recourir aux mêmes ressources individuelles individuelle et collective que dans le cas d'un acte raciste, d'un acte homophobe, etc. Et là, il s'agit de faire pression sur l'auteur pour que cette personne s'engage dans cette procédure collective. Alors, c'est évidemment là le premier écueil sur lequel parfois achoppe la justice transformative, puisqu'il s'agit de convaincre collectivement un auteur qu'il a tout à y gagner à entrer dans cette procédure collective. Alors, souvent, on pense que c'est bien plus compliqué que ça ne l'est en réalité. Pourquoi ? Parce que on pense trop souvent encore dans la matrice de la justice pénale. La justice pénale est une justice qui n'encourage pas l'auteur à reconnaître sa responsabilité, ni même l'étendue des faits. Hein, lorsque vous êtes poursuivi, vous avez tout intérêt à minimiser les faits, à minimiser votre propre responsabilité. Hein, vous usez de tous les avantages de la défense. Et évidemment, c'est pour les victimes souvent des formes de revictimation, hein, puisque les faits ne sont pas reconnus par les auteurs. Donc la justice transformative s'engage dans une autre voie, hein, qui est bien celle de la reconnaissance individuelle et collective du tort qui a été commis et d'un travail collectif autour de ça.
Ben, c'est super. Que tu sois bavard. En l'occurrence, sur l'histoire de la justice, c'est vraiment la fin du livre qui parle de où il y a vraiment deux chapitres qui racontent en fait un peu aussi la différence précisément entre parce que ça peut être des gros mots tout ça, mais la justice restaurative et la justice réparatrice quoi. Donc, pour la seconde en fait, enfin disons qu'il y en a une où il y a une dimension communautaire qui est plus affirmée précisément et qui casse encore plus l'individualisation en fait de la peine, c'est-à-dire que pour se dépénaliser un peu l'esprit, on désindividualise aussi, on accepte l'idée qu'il y a que c'est très difficile de dissocier un acte déjà et une peine quoi. Donc c'est intéressant avec les limites qui sont un petit peu ébauchées, c'est-à-dire que ce sont des procédures aussi d'une certaine manière et sans subversion des rapports sociaux, ces procédures restent des procédures et on reste dans ce monde. Et ce qui est un petit peu fou et ça recolle un petit peu avec je trouve le début du livre, c'est que dans ces propositions qui ont l'air des propositions nouvelles, on redécouvre en fait un petit peu magiquement et par le biais de l'université de manière un peu compliquée des choses qui ont été portées précisément par des mouvements féministes au début des années 70. Avant de se faire basculer dans autre chose dans la deuxième partie des années 70 autour de ça, mais alors que ces choses enfin ont été pensées, ont émergé dans un contexte parce qu'il y avait un contexte qui allait avec ça quoi. Et du coup ouais, c'était juste pour commenter ça.
Moi, je voulais savoir sur quel point, sur quel positionnement tu as l'impression d'avoir le plus évolué entre le premier livre et l'actuel, et pourquoi c'est si ce qui a été déterminant, c'est des expériences par lesquelles tu es passé ou c'est des rencontres avec des personnes ?
Est-ce qu'on prend une deuxième question ? Non, mais c'est super, hein, je peux y répondre. Alors, tu mentionnes mon premier livre, il est ici. Je fais que des couvertures roses, hein, c'est ma marque de fabrique. Ouais, il est là. Mon premier livre, il s'appelait « Les détenus et leurs proches ». Il était basé sur à la fois mon travail académique, mon travail de thèse de sociologie, mais il était aussi bien plus qu'informé, il était façonné par mon expérience d'avoir eu des proches incarcérés, et ça me semblait extrêmement important à l'époque de donner à voir que la prison n'affecte pas uniquement les personnes qui sont à l'intérieur, mais aussi les personnes qui se retrouvent à faire un travail de solidarité, qu'il soit matériel, financier, émotionnel, pour les personnes qui sont à l'intérieur, ce qui est une question éminemment féministe, puisque on attend davantage des femmes que des hommes de faire ce travail de solidarité. Donc c'était le point de départ de à la fois de mon parcours abolitionniste et puis ça a aussi été extrêmement important dans mon parcours féministe puisque j'ai eu très vite le sentiment avec cette expérience-là qu'il s'agissait bien d'une expérience de femme et que il s'agissait là aussi d'une question féministe, une question qui est jamais évoquée par les courants dominants du féminisme, puisque les femmes qui sont affectées par l'existence de la prison ne sont pas n'importe quelle femme. Hein. Je déteste cette expression qui est de dire la prison ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit d'aller en prison ou devant les portes des prisons pour savoir que non, la prison ça arrive pas à n'importe qui. Ça arrive à des catégories de population extrêmement précises. Alors après, tu me poses la question de mon évolution personnelle. C'est vrai que j'ai assez vite lu ce qui se faisait aux États-Unis, parce que lorsque je suis devenue abolitionniste, c'était au moment où se créait Critical Resistance, donc au début des années 2000. C'était un mouvement qui était dans lequel Angela Davis a eu un rôle extrêmement important, que assez vite je me suis posé la question des violences à caractère sexuel, et que assez vite il y a eu ce malaise dans mon féminisme, hein, en tout cas cette difficulté à articuler abolitionnisme pénal et féminisme, et je trouvais que il y avait assez peu de discussions sur ces sujets-là en France, et donc j'ai beaucoup plus trouvé de billes et de matière à réflexion aux États-Unis, notamment parce que dans les années qu'ont suivi la création de Critical Resistance, ils ont publié un texte qui était, à mon avis, extrêmement important sur la question de l'abolitionnisme et la question des violences à caractère sexuel, en disant, en gros, il n'y aura pas d'abolitionnisme sans féminisme et sans penser ces questions-là. C'était une déclaration et un texte conjoint avec un groupe qui s'appelle Insight, qui est un groupe de femmes et de personnes LGBT racisées, qui aussi a été assez important dans mon propre cheminement à la fois politique et intellectuel, parce que ce groupe a porté une critique extrêmement pertinente et féroce du secteur des ONG, du secteur de la philanthropie. Et c'est une question qui faisait écho à mes propres réflexions, notamment en situation politique et en situation de mobilisation, où, comme Pierrot l'évoquait tout à l'heure, je faisais des allers-retours entre militantisme et travail académique, et où dans les tentatives de constituer des groupes politiques entre proches de personnes incarcérées, et dans les groupes militants abolitionnistes, je voyais que c'était quelque chose sur lequel on se heurtait, parce que il y a assez vite la tendance à être dans une position d'aide, une position de venir en aide aux proches de détenus, cette position de philanthropique qui souvent part d'une bonne intention, mais qui du coup crée aussi cette distance sociale et dit bien que il y a des aidants et puis il y a des aidés. Hein, et eux ont vraiment eu ont eu les idées vraiment extrêmement claires et l'ont bien désigné, hein, comme quoi les mouvements abolitionnistes pouvaient être pris dans ce piège de la philanthropie et de l'aide à la fois aux prisonniers et aux proches de personnes incarcérées. Et donc là, on posait la question de la solidarité politique, comment on met en place une solidarité politique et qu'on ne tombe pas dans ce piège de la relation d'aide.
S'il n'y a pas de questions, je dis un petit mot sur un truc que tu dis à la fin du livre, justement, sur le qui est issu, à mon avis, enfin, précisément de tes deux expériences, là, et de l'histoire des histoires collectives aussi autour de la prison et des proches. Je redis peut-être un peu différemment que ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que, précisément, des collectifs de femmes se constituaient, ou devraient, ou étaient en train, ou essayent, et voilà, et achoppent très souvent sur les mêmes choses, mais aux abords des prisons, et qui se font rattraper très souvent par les difficultés internes en fait à la détention, et le fait que parce qu'en fait ce serait comme si des proches se regroupent pour aider des gens à l'intérieur, enfin aider leurs proches, s'aider mutuellement pour aider leurs proches, et puis s'aider mutuellement aussi tout court en tant que proche, pas juste en tant que personne qui vient aider quelqu'un, mais en tant que quelqu'un qui galère dehors tandis que la personne est à l'intérieur. Et en fait ça pose un gros paquet de questions, et à chaque fois, enfin, et très souvent, c'est encore une fois, c'est les nanas qui s'organisent dans ces trucs là mettent de côté ce dernier bout très souvent. Et ce qui fait que du coup prennent vachement de mal à prendre soin d'elles à ce moment-là, parce que c'est dur et ça passe toujours en dernier dans ces trucs-là, et au final finissent par s'embrouiller sur des histoires qui sont dépendantes de l'intérieur en oubliant ce qu'elles construisent ensemble à l'extérieur. Et ça c'est t'as une très belle phrase là-dessus à la fin, là j'ai pas le temps de la retrouver, mais du coup c'était pour compléter ça.
Bon, j'imagine qu'il y a des timides, c'est pas grave. De toute façon, on va avoir un petit peu de temps pour être là et discuter de façon informelle, n'est-ce pas?
Et du coup, t'as une notion aussi à la fin, peut-être ça peut aider aussi. En gros, tu dis c'est un mot que j'aime bien et qu'on aime bien aussi à l'envolée pour le coup, parce que c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu quand même à notre manière et pas du même endroit tout à fait. Tu parles de bricolage, quoi, et en disant que en fait toutes ces histoires c'est avant tout, et que là si l'université informe un peu mieux aux États-Unis le mouvement social que ça n'est le cas en France, et qu'on peut aller puiser des choses, etc. En France, c'est pas tout à fait le même rapport, et espérons que les luttes sociales fournissent elles-mêmes aussi des outils pour se bagarrer, se dépasser tout le temps. En tout cas, à chaque fois, ce sera dans des bricolages, quoi. C'est certain, et c'est ce qu'on n'arrête pas d'essayer de refaire. Et chaque tentative est à chaque fois un bricolage. Il n'y a pas de, je pense pas, et je pense qu'on partage vraiment ce truc-là. Nos expériences parallèles pendant des années font que il y a pas de sortie. Enfin, je veux dire, la solution, il y a pas de solution évidemment. Et il faut accepter ce déséquilibre. En fait, faut accepter que c'est un problème permanent et de l'accepter en tant que tel, quoi. Et que c'est ça qui fait se déplacer en fait nos collectifs, nos histoires collectives, nos manières de nous battre et nos capacités à se solidariser et puis à se bagarrer, à s'aider et à s'entraider, quoi. Parce que
oui, c'est l'expression qu'a utilisé Thomas Mathiesen d'abolitionnisme inachevé, hein. Il dit très bien que c'est par nature, l'abolitionnisme ne peut être qu'inachevé. C'est un appel à l'imagination. On parle beaucoup de ça dans les milieux abolitionnistes, hein, en tout cas états-uniens, de cette imagination abolitionniste, ce qui permet de redire que la prison n'a que quelques siècles d'existence, que toutes les sociétés humaines ont toutes trouvé des moyens de résoudre leurs conflits en leur sein. Alors c'était pas forcément mieux que ça l'est aujourd'hui, hein. L'abolitionnisme, c'est pas un appel, un retour vers un passé qui aurait été meilleur, mais c'est l'idée que la prison peut sembler un horizon indépassable aujourd'hui, mais que l'humain a la capacité d'inventer, hein, d'autres manières de résoudre ces conflits, plutôt que de les déléguer à des institutions et à des experts. Et voilà, d'où cette idée d'abolitionnisme inachevé.
Je vais faire une remarque, j'espère que ce ne soit pas trop provocateur, mais tu as parlé aux États-Unis, tu as dit ce sont des femmes incarcérées qui s'organisent avec d'autres. Et nous ici, c'est plutôt une avant-garde éclairée qui discute de ça. L'abolitionnisme, quand tu dis contre les prisons, il n'est pas porté par les gens qui sont en prison ou qui sont porteurs de la prison. Ils sont en colère, ils disent qu'ils n'ont pas à y être, mais ils pensent qu'il y en a certains qui méritent bien la prison. Et c'est un problème, hein, c'est un problème en France, peut-être parce qu'on est un pays très jacobin, très centralisé, et on le voit quand les pauvres s'organisent sur les ronds-points, ils sont pas sérieux, c'est pas correct, et ça ne fait pas bouger les foule intellectuelle du tout. Et je crois qu'on pourrait s'interroger sur ça, hein, de pas être une avant-garde, de pas poser l'abolition et de se dire aux gens à eux-mêmes de se prendre en charge. Et ça, je vois une différence entre ce que tu as décrit des États-Unis et ce qu'on peut percevoir ici en France.
Alors, au risque de vous décevoir, les abolitionnistes parmi les prisonniers aux États-Unis sont aussi une extrême minorité. Après, il y a l'effet du nombre aux États-Unis, c'est avec 2,5 millions de personnes incarcérées, le pourcentage fait qu'on arrive plus facilement à avoir quelques milliers de prisonniers abolitionnistes. Alors moi, je désigne ceux qui sont pas abolitionnistes par le terme de légitimistes. Autorisez-moi d'utiliser ce néologisme, ça va permettre de dire les choses plus rapidement. Je pense que cette question du légitimisme des personnes qui sont incarcérées et de leurs proches est une question extrêmement importante dont on doit s'emparer en tant qu'abolitionniste et qu'on doit pas juste abandonner à une sorte d'état de fait, hein, de dire bah c'est dommage, ils sont abolitionnistes et puis nous on est l'avant-garde et effectivement on doit leur apporter la lumière. Je pense que ce légitimisme des prisonniers et de leurs proches, il a des explications. Alors là, je suis peut-être avec un biais de sociologue, mais je pense que ce qui se joue dans le légitimisme des prisonniers et de leurs proches, c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre dans toutes les populations qui sont stigmatisées, dans toutes les populations qui sont marginalisées. C'est une tendance à considérer que le sort qui leur est fait n'est pas totalement un sort injuste, parce que c'est plus facile de penser qu'il s'agit là de quelque chose qui finalement a des raisons d'exister, mais pour les autres. Et là, c'est quelque chose que l'on peut connaître dans d'autres segments de la population qui peut sembler plus ou moins familier. Mais par exemple, on va entendre des personnes toxicomanes dire « Non mais moi, je suis pas un vrai drogué. Par contre, lui, qu'est-ce que c'est un drogué ? Non mais alors moi, je suis pas vraiment une prostituée. Mais alors elle, par contre, c'est une prostituée, etc. » Toutes les populations stigmatisées ont tendance à dire bah, « Finalement, moi, je suis pas vraiment la personne qui est désignée par ce stigmate, mais par contre, les autres, oui, le sont. » Et on a ça d'une certaine façon avec les prisonniers, mais aussi avec leurs proches, hein, de dire « Non, mais alors moi, je mérite pas d'aller en prison, ou moi, mon mari, mon frère, etc., lui, mérite pas la prison, mais par contre, machin, alors lui, vraiment, et puis il faudrait qu'il y reste 20 ans, quoi. » Alors pourquoi ? Parce que c'est plus simple de dire qu'on a été victime d'un sort individuel, de quelque chose qui est injuste à sa propre échelle, plutôt que de penser en fait le système de façon plus générale, hein, et de politiser le sort individuel qui nous est fait. Et là, je pense que c'est bien l'enjeu du travail politique que l'on peut faire pour politiser des situations individuelles. Alors, c'est évidemment pas de dire que tout se résout par la politisation, mais il y a bien là quand même un travail de conscientisation, d'éducation, alors qu'a été par exemple central dans le mouvement africain-américain, dans les prisons, hein, lorsque le mouvement des Black Panthers a dit de faire des prisons leurs écoles, c'était bien de politiser la situation des Noirs incarcérés. Donc ce légitimisme, en tout cas, ça doit pas être une raison d'abandonner les luttes abolitionnistes. Et je pense qu'il faut, encore une fois, le prendre au sérieux comme étant juste le reflet d'une position qui est la position d'être en prison ou d'avoir des proches incarcérés. Et je pense que c'est en le prenant sérieusement comme l'expression d'une position sociale qu'on peut faire un travail politique plutôt que de se désintéresser, hein, de personnes qui ne partageraient pas notre opinion politique. À cela, j'ajoute le fait que il y a souvent ce préjugé, hein, qui va avec cette idée d'un légitimisme des proches, hein, qu'il ne se passe rien dans les prisons pour femmes, ou que les femmes qui vont au parloir, de toute façon, elles acceptent la prison, elles sont pas abolitionnistes, etc. Et là, on sait qu'on a affaire à quelque chose qu'on entend souvent, nous les femmes, hein, à propos de nos luttes, de nos formes de résistance. C'est-à-dire que les contraintes qui sont celles liées à la condition de femme fait que les formes de résistance et les formes de lutte ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Et que il y a des formes de résistance parmi les proches, il y a des formes de résistance dans les prisons pour femmes. Elles sont parfois fort différentes de ce qui existe dans les prisons pour hommes, de ce qui existe de la part des prisonniers, mais elles doivent aussi être prises au sérieux. Et donc, c'est pour ça que j'entends à la fois ce que vous dites, et en même temps, je pense qu'il faut porter sur le légitimisme à la fois des prisonniers et des proches une analyse à la fois politique et situé, et en même temps avoir ce regard féministe sur ce que ça veut dire lorsque les proches disent légitimiste.
Ouais, je vais compléter juste avec deux trucs sur cette histoire, c'est que la justice te conduit à ça aussi, en fait, et conduit les prisonniers ou les proches à établir des pyramides et des distinctions entre les bons crimes et les mauvais crimes. Elle te pousse à ça, en fait, pour essayer de faire baisser ta peine quand même. en espérant que tel crime, et tu reconstruis une hiérarchie à l'intérieur de la prison, c'est aussi une manière de s'organiser et de vivre et de survivre à cette situation. Donc je qualifierais pas le légitimisme tout à fait, enfin tu vois, je compléterais de ce truc là quand même, à mon sens quand même, parce qu'il y a ce truc là, c'est aussi une manière de survivre à l'intérieur, de refabriquer à l'intérieur, alors bêtement, sur des mauvais critères ou sur des critères débiles, etc., mais des gens avec qui t'as pas envie de vivre et avec qui t'es obligé de vivre, parce que la prison est une communauté de vie en fait, et des gens se retrouvent forcés de vivre ensemble et de se supporter du jour au lendemain, et il n'est pas dit que tout le monde ait envie de se supporter. Du coup, se recréer des catégories là-dedans, et c'est une manière de vivre aussi, quoi. Donc, c'est très difficile d'avoir un point de vue aussi extérieur là-dessus, à mon sens. Et pour ce que tu dis exactement sur l'histoire que portaient les Black Panthers beaucoup aux États-Unis. Quand même, et Chantal, tu le sais quand même, il y a eu 3 ans. Enfin, le Cap, il a dit ça à un moment. C'était quand même des prisonniers, des prisonnières et des proches qui, en 3 ans, ils ont bougé. Hein. Voilà. Voilà. Enfin, oui, voilà. C'est...
Je redisais un peu ce que veut dire Chantal. Elle n'était pas en train de dire, je pense pas, en tout cas que les proches ou que les prisonniers étaient pas assez radicaux. Elle disait juste, c'est qui le public qui vient t'écouter ce soir, c'est, on est qui, nous, là, ici? C'était ça la question. Et c'était ça en comparaison par rapport aussi à ce que tu disais sur les groupes LGBT, sur les questions qui se posaient aux États-Unis et qui avaient l'air de traverser plus de gens directement concernés que ce qu'on est ici ce soir, il me semble. Je pense que c'est quand même ça. Enfin, peut-être c'est pas ça qu'elle voulait dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu.
Non, ouais, mais c'est pour ça que moi la réponse a été juste qu'il y avait des moments où le mouvement il s'était fait plus largement. C'est ça que je voulais dire, c'est que préciser et que même des mouvements, enfin tu vois, comme le Cap de l'intérieur, petit à petit, ils ont pas du tout commencé comme ça, et en 3 ans, ils ont fini par intégrer leur propre violence, que les violeurs réfléchissent à ce qu'ils avaient fait, intégrer ce truc-là à leur truc. Ça a mis 3 ans, c'était étrange, ça a pas duré bien longtemps, mais ça a existé un petit moment. Ah oui, c'était un comité d'action prisonnier, pardon, qui, dans les années 70, avait fait suite au GIP, qui lui était un mouvement d'intellectuels. Et là, il y avait une vraie différence, c'était un mouvement de prisonniers, quoi, auto-organisé.
Oui, bonjour. Donc, en fait, je voulais juste savoir si vous aviez des exemples de pays ou de régions où cette justice alternative dont on parle a été mise en place ou essayée, ou est-ce qu'ils sont plus avancés, voilà.
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Je peux vous dire d'abord, la prison, c'est une institution qui a 2 siècles d'existence, qui est très liée à une histoire, à l'histoire de la colonisation, hein, que c'est les pays occidentaux qui ont exporté dans un certain nombre de pays l'institution carcérale, mais que du coup l'histoire de la prison, elle est totalement anecdotique à l'échelle de l'histoire de l'humanité. La plupart des sociétés humaines ont fonctionné sans institution d'enfermement et de délégation à une institution, à un état de prise en charge et de traitement des délits et des crimes. Alors après, autre niveau de réponse à votre question, c'est ce qu'on appelle la justice réparatrice. C'est-à-dire que à partir de la fin des années 70, dans un certain nombre de pays, à commencer par le Canada, beaucoup plus récemment en France, c'est notamment la réforme Taubira d'il y a quelques années, le système pénal a évolué en entendant la critique qui était faite d'une des limites de ce système, qui est celui de la punition. Et donc il a entendu qu'il fallait entendu en tout cas que il y avait sans doute une critique légitime lorsque on dit mais le système pénal ne répond pas aux attentes des victimes, hein. Et donc un certain nombre de pays, donc le Canada et voilà un peu l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont mis en place des systèmes de justice réparatrice, des systèmes aussi donc dans un contexte colonial comme ceux du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de prise en compte des besoins spécifiques des communautés autochtones, et donc en déléguant aux communautés autochtones elles-mêmes le soin de régler entre elles les problèmes liés à la commission de délits et de crimes. Alors après, c'est de façon plus étendue et en dehors de spécifiquement des populations autochtones, c'est la mise en place de rencontres entre des auteurs et des victimes, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les cercles de responsabilité, c'est-à-dire des personnes ayant commis des actes graves ou susceptibles de commettre des actes graves qui sont entourés de volontaires et qui créent du lien social autour d'une personne, hein, avec cette chose qu'on l'on sait, que plus les personnes sont isolées socialement, plus il y a des risques de passage à l'acte, notamment pour les auteurs de délits et crimes à caractère sexuel. Donc ces cercles de responsabilité, ils ont été notamment développés pour ce type d'auteurs, hein, avec alors des débats scientifiques sur est-ce que ça prévient réellement la commission de délits et d'actes. Et donc, pour répondre à votre question, je peux vous dire, bah oui, effectivement, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, ils sont plus avancés sur la justice réparatrice. Puis après, le troisième niveau de réponse, c'est de vous dire, mais et c'est là que la critique que fait la justice transformative, qui est de dire, bah, en fait, la justice réparatrice, elle est intégrée au système pénal. Hein, et finalement, on n'en sort pas, on sort pas de cette question de l'État qui décide de qu'est-ce qui fait du tort et qu'est-ce qui ne fait pas du tort. Hein. Et l'abolitionnisme critique ça en disant, bah, en fait, ça doit pas revenir à l'État de décider ce qui fait tort, puisque ce qui me fait tort ne vous fait pas forcément tort. Ce qui me fait un peu tort, peut-être à vous fait énormément de tort, et donc c'est bien l'idée que c'est aux personnes de redéfinir ce qui leur fait tort et donc de s'émanciper des catégories pénales de délits et de crimes. Et donc la justice transformative critique la justice réparatrice, qui est finalement une extension du système pénal, qui ajoute certes à la punition des formes de réparation, mais reste en fait foncièrement une institution d'État. Et donc là, la justice transformative se construit en marge du système pénal et en marge de l'État.
Vous m'entendez? Ça marche?
Oui.
Quoi? Ah, ok. Moi, je vous demandais si vous parliez dans votre bouquin un peu de... je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai l'impression que il y a pas mal de peines ou de nouvelles peines qui sont au début utilisées avec des arguments féministes pour ensuite être propagées à l'ensemble de la société. Enfin, ouais. Et du coup, je sais que c'est le cas pour les prises ADN notamment. Et bientôt pour... Enfin voilà, est-ce que vous développez ça dans le bouquin ?
Oui, totalement. Hein, c'est la question de l'instrumentalisation des luttes féministes par ce qu'on appelle le populisme pénal. Et c'était un peu chelou là. mais alors... c'est à la fois vrai avec la question de l'instrumentalisation des luttes féministes et en particulier de la question des délits et crimes à caractère sexuel, en particulier des délits et crimes à caractère sexuel à l'encontre des enfants. Donc c'est évident que la figure du pédophile, hein, ces dernières décennies a été utilisée pour justifier un certain nombre de mesures, comme vous l'évoquiez, hein, la prise de l'ADN, ça a d'abord été justifié sur la question de la pédophilie. On a aujourd'hui quand même une mise en concurrence de la figure du pédophile et du terroriste islamiste, hein, où là aussi les mesures d'exception sont souvent justifiées par la question du terrorisme. Alors effectivement, je l'évoque dans le livre. Je pense que c'est important de parler de l'instrumentalisation du féminisme par le populisme pénal, mais c'est aussi important de reconnaître que le féminisme lui-même, en tout cas ses courants dominants, appellent à davantage de criminalisation. Il ne s'agit pas de dénuer de responsabilité les féministes dans ce mouvement-là.
Merci beaucoup et merci pour l'accueil aussi, à Lydre et tout ça.
C'était Gwenola Ricordo, auteure du livre « Pour elle toute, femme contre la prison » paru aux éditions Luxe, un débat animé par le collectif L'Envolée. Une rencontre qui a eu lieu le mardi 14 janvier 2020 à la librairie Terra Nova. Sur livre ou dormir.